Étant donné qu'on parle de vacances, hein, les vacances s'en viennent. Je ne sais pas si vous avez planifié vos vacances, si vous êtes prêtes. On voit plein de photos sur vidéo ou des vidéos de vacances qui circulent dans les médias sociaux. Les gens sont contents de se fixer l'objectif d'aller en vacances, soit d'aller dans le sud, soit aller faire du camping. Alors, c'est le temps des vacances. Alors, on planifie des vacances et c'est un bel objectif de famille. Mais vous savez, que l'on parle de vacances, qu'on parle de carrière, qu'on parle de travail, qu'on parle de projet de rénovation, c'est important de se fixer des objectifs. D'ailleurs, c'est très populaire maintenant d'entendre sur YouTube, Facebook, TikTok et tout ça, des conférences qui nous expliquent comment mieux faire des objectifs et comment les atteindre. Lorsque j'étais à Boston, j'étudiais à Boston, et puis notre professeur, Haddon Robinson, nous rencontrait chaque année, ça a été 3 ans, et puis chaque année, on était une cohorte de 24 étudiants. Il nous demandait, premièrement, de se fixer 3 objectifs pour l'année qui venait. Alors, un objectif pour la famille, un objectif pour le travail, puis un objectif pour notre formation personnelle. Et il nous rencontrait, il prenait le temps de nous rencontrer dans son bureau, chaque étudiant, parce que c'était très important pour lui de nous encourager, nous coacher et vraiment s'assurer qu'on puisse avancer à atteindre, à poursuivre ces objectifs-là. Et pourtant, c'était une personne qui était très occupée. Il était non seulement professeur, responsable de ses cohortes, mais aussi président de l'école, une grande école. Mais c'était important pour lui de se fixer des objectifs. Mais certains chrétiens, par contre, ne croient pas à ça. Ils disent qu'on ne devrait pas se fixer des objectifs, qu'il faut laisser le Seigneur diriger. Ils disent que se fixer des objectifs, c'est un manque de foi. D'ailleurs, certains croient que c'est un manque de maturité spirituelle que de se faire des plans. Et je l'entends de temps en temps. Je l'entends vraiment, là. C'est vraiment quelque chose qui ressort de temps en temps. Et je dirais qu'une bonne partie de ces gens qui croient cela, qui voient des mauvais œils de planifier, d'organiser puis de fixer des objectifs, se basent entre autres sur le passage que nous allons lire et regarder ensemble ce matin. Mais avant d'aller voir cela, de voir ce passage, j'aimerais qu'on puisse prier et remettre le restant de cette matinée au Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de tout cœur pour cette belle église, cette belle famille et tout ce que tu as fait dans la vie de ces personnes qui sont ici. Chaque personne a une histoire de ta grâce et les évidences de ta grâce sont très évidentes, juste à écouter les histoires de chacun. Merci Seigneur, merci pour les parios, pour ce couple missionnaire et on te prie de les bénir. On te prie aussi d'ouvrir nos cœurs ce matin, nous permettre par l'aide de ton Esprit Saint de faire ta volonté, de suivre ta parole avec joie. Alors parle-nous alors qu'on ouvre cette portion des Écritures ce matin, parce qu'on te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à tourner, si vous avez votre Bible, on va tourner dans Jacques. Et ce matin, le passage que nous allons lire, c'est Jacques, chapitre 4. Et nous allons lire les versets 13 à 17. D'accord? Jacques 4, 13 à 17. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Eh bien, nous sommes toujours dans notre série sur la maturité spirituelle. Nous sommes en train de voir les marques de maturité spirituelle dans la lettre de Jacques. Et la marque de maturité spirituelle que nous voyons dans le passage d'aujourd'hui est de faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, Jacques commence en disant qu'il est ridicule d'ignorer la volonté de Dieu. Ultimement, Jacques est en train de parler de la vision du monde. Jacques commence cette section en reprenant l'attitude de certaines personnes qui étaient arrogantes, qui faisaient partie de l'Église et qui étaient à l'aise financièrement. Il n'est pas en train de reprendre ces personnes parce qu'ils sont riches. Non, Dieu choisit de bénir certaines personnes avec cette capacité de faire de l'argent, faire du profit. Et ça, c'est très bien. C'est pas ça le problème. L'attitude dont parle Jacques ici s'adresse à quelques personnes arrogantes qui pensent et agissent sans tenir compte de Dieu, sans se référer à Dieu, sans se soucier de la volonté de Dieu. On pourrait appeler cette attitude de l'athéisme pratique. Le problème avec ces personnes riches, mais arrogantes, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de Dieu. Et cela relève d'une vision du monde tout à fait erronée. C'est une vision du monde qui met Dieu de côté, marquée par une confiance en soi qui est présomptueuse et prétentieuse. Jean s'adressait à des gens d'affaires qui faisaient partie de l'Église. Ils discutaient de leurs affaires, de leurs projets, et se vantaient de leurs projets, mais Dieu ne faisait pas partie de leurs discussions. Regardez leur attitude, verset 16. « Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. » On peut lire dans une autre traduction, Jean 4,16, qui dit « Alors que vous, vous êtes fiers de vos grands projets et vous vous en vantez, sachez qu'un tel orgueil est coupable. » Dans la version second 21 que nous voulons lire tantôt, le mot « fanfaronnade », c'est le même mot qu'on va retrouver dans 1 Jean 2 lorsqu'il parle de l'orgueil dû aux richesses. C'est pas la richesse le problème. C'est cet orgueil. Dans 1 Jean 2,15, par exemple, nous pouvons lire « N'aimez pas le monde ». Ni ce qui est dans le monde. C'est pas dit ici, maintenant, n'aimez pas les personnes. On parle pas de ça. On parle du système. D'ailleurs, on va le définir plus loin. N'aimez pas le monde, ni de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire, alors il va qualifier, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû à la richesse, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jacques parle donc d'un groupe de personnes qui mesuraient leur succès en fonction de leur capacité, de leur ingéniosité de faire des affaires, de brasser des grosses affaires, mais sans tenir compte de Dieu. C'est pour cette raison que Jacques dit « toute vantardise de ce genre est mauvaise ». Maintenant, il n'y a pas de problème à faire de bonnes affaires. Certaines personnes ont le don de prendre une pièce et en faire 10. D'autres de prendre 1 $ et en faire 100. Bravo! Jacques ne reproche pas ces gens d'affaires, leurs projets, ni même leur désir de faire du profit. C'est donc une mauvaise façon d'interpréter ce passage si on pense que Jacques est en train de critiquer la richesse ici. Bien des hommes de Dieu et des femmes de Dieu dans la Bible étaient très riches, mais ils étaient consacrés à Dieu. Une autre erreur d'interprétation que l'on entend chez certaines personnes, c'est que l'idée que Jacques serait en train d'interdire aux chrétiens toute forme de planification ou de faire des objectifs ou encore de se préoccuper de l'avenir. Mais Jacques n'est pas en train de condamner le fait de prendre une assurance vie, par exemple, ou d'épargner pour la retraite. J'ai déjà entendu ça, quelqu'un dit, « Moi, je ne mets pas de l'argent de côté pour ma retraite. Ah, le Seigneur va pas voir. » Bien, on voit dans le livre des Proverbes, plus d'une fois, la sagesse de mettre de l'argent de côté, mettre de l'argent de côté pour des situations d'urgence et tout ça, de bien gérer ses sous, son argent. C'est tout à fait biblique, ça. Donc, le mal qui est reproché ici, en fait, est tout simplement de mener sa vie en oubliant Dieu. Il dit que l'un des pires péchés, l'un des plus graves, c'est d'oublier Dieu, ne pas en tenir compte, de mener sa vie en oubliant Dieu, en l'ignorant. Il n'y a rien de pire que de se sentir ignoré. Alors imaginez ignorer Dieu, notre Créateur. Parce que lorsque l'on est ignoré, on est traité comme un moins de rien, un rien du tout, on est traité comme du vent. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on voit souvent que l'un des grands péchés que Dieu dénonce est de l'oublier, justement, de passer à travers la vie en l'oubliant, en ne tenant pas compte de lui. Psaume 9, 17 dit ceci, « L'Éternel se fait connaître, il fait droit, il prend le méchant à son propre piège, que les méchants rejoignent de ce jour des morts avec toutes les nations qui oublient Dieu. » Voyez-vous, le méchant ici décrit est celui qui ne tient pas compte de Dieu, qui oublie Dieu, qui l'ignore. Et c'est ce que Jacques est en train de dire ici. Oublier Dieu est mauvais, ne pas se soucier de sa volonté est mauvais. Il leur dit, écoutez, cette attitude est ridicule. C'est ridicule d'ignorer Dieu, d'ignorer la volonté de Dieu. Mais tout d'abord, c'est ridicule parce que Dieu seul est omniscient. Il est le seul à tout connaître. Verset 13, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. » Vous qui ne savez pas ce qui va arriver demain. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Jacques s'appuie sur le proverbe 27 qui dit ceci, verset 1, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. » C'est être vraiment présomptueux que de dire que nous allons faire ceci ou faire ça, voyager, faire ceci, sans se référer humblement à Dieu. Jacques revient au thème de son premier chapitre, encourageant les riches croyants à ne pas se vanter de leur propre réalisation, mais plutôt à mettre leur confiance en Dieu. Parce que ce genre d'attitude est tout simplement incompatible avec une vision chrétienne du monde où Dieu dirige souverainement le cours des affaires humaines. Dieu est souverain. Rappelons-nous cette parabole de Jésus, n'est-ce pas, dans Luc 12, cet homme d'affaires, versets 16 à 21, un agriculteur avec une récolte abondante, le gars était riche, là, tellement abondante que ses granges, ses entrepôts n'étaient pas assez grands pour recevoir tout son stock, son inventaire. Il a donc décidé de construire de plus grandes granges et d'avoir une plus grande sécurité pour l'avenir. Et voici ce qu'il se dit, il se parle à lui-même dans Luc 12, 19, il dit, « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, beaucoup de cash, tu es riche, mon ami, beaucoup en réserve pour de longues années. Alors, repose-toi, mange, bois, puis fais le party. » Avez-vous remarqué que Dieu ne fait pas partie de l'équation ici? Aucune mention de Dieu. Alors, quelle a été la réponse de Dieu à sa vantardise? Bien, Luc 12, 20, Jésus dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera réclamée. » On ne peut pas contrôler les événements du futur. On n'a pas la sagesse de voir l'avenir, ni le pouvoir de contrôler. Seul Dieu est omniscient. Il est le seul à tout connaître. Quelle folie de ne pas tenir compte de Dieu et d'ignorer sa volonté. Voilà le message de Jacques. C'est comme voyager sur une mer déchaînée sans boussole ou rentrer en pleine nuit dans une jungle sans repère. Maintenant, si la vie n'est pas incertaine pour Dieu, Dieu connaît tout, elle l'est pour nous. Ce n'est que lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu qu'on peut avoir confiance en l'avenir, car on sait qu'il nous guide. Et quoi qu'il arrive, parce qu'il va y avoir des épreuves aussi, ça sera des temps difficiles aussi parfois. Quoi qu'il arrive, par contre, il y a cette tranquillité dans notre cœur, cette paix de savoir que nous sommes dans son plan. Une autre raison pour laquelle il est ridicule d'ignorer la bonté de Dieu, c'est que la vie est fragile. Verset 14, la deuxième partie du verset 14 dit ceci, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Job dit la même chose essentiellement au chapitre 8, verset 9, nos jours sur la terre ne sont comme une ombre. Ça passe vite. Job 14, 1 répète ceci, « L'être humain est né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit. Il s'enfuit comme une ombre, sans résister. » Alors, puisque la vie est si courte, on ne peut pas se permettre de simplement passer notre vie. Et on ne veut certainement pas gaspiller notre vie. On veut investir notre vie dans des choses qui comptent, les choses éternelles. Certains parmi vous, vous connaissez le chanteur chrétien Richard Toupin. Il a composé plusieurs chants. Et il a composé un chant qui s'intitule « Réussir sa vie ». Écoutez bien le refrain. Il dit « J'ai trouvé le vrai bonheur. Il n'y a pas d'argent dans sa demeure. Le bonheur n'est pas de réussir dans la vie, c'est de savoir qu'elle est réussie. » Alors, comment réussir sa vie? Bien, Jacques va répondre au verset 15. Il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, donc on parle de la volonté de Dieu, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Maintenant, voici à quoi ressemble la maturité chrétienne ici. C'est cette attitude qui cherche à accomplir la volonté de Dieu. Et de quelle manière Est-ce une marque de maturité spirituelle? Mais premièrement, chercher à faire la volonté de Dieu, c'est comprendre que Dieu nous aime par-dessus tout et qu'il veut notre bien. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est un Dieu de sagesse et il sait ce qui doit arriver et quand ça doit arriver. Et en tant que Dieu d'amour, il désire ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Sa volonté est l'expression de son amour. L'une des plus belles découvertes que l'on puisse faire est de découvrir la bénédiction d'aimer et vivre la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu est également une marque de maturité puisque c'est faire preuve d'obéissance. Parce que la volonté de Dieu, c'est pas une option. Dieu est le Créateur et nous sommes ses créatures. On lui doit obéissance. Il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est notre Roi. Et si nous sommes venus à Jésus pour recevoir son salut, nous sommes ses enfants, mais aussi ses serviteurs. Il est notre Sauveur et aussi notre Seigneur. Traiter la volonté de Dieu à la légère, c'est lui déplaire. Verset 17 dit ceci, « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Alors, si quelqu'un connaît la volonté de Dieu et ne le fait pas, il marche dans la désobéissance. Verset 15, il dit ceci, Jacques nous dit, « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Maintenant, ça, ce n'est pas une devise qu'on doit adopter. Là. J'entends ça des gens, des fois, dire ça, « Ah, si Dieu le veut ou Dieu voulant. » Il y a des gens qui disent ça souvent, là, Dieu voulant, Dieu voulant. Et c'est correct. Certainement, c'est correct. On le voit d'ailleurs chez l'apôtre Paul, on va le voir tantôt. Mais on parle du cœur ici. On parle de l'attitude du cœur. Jean 4, 34 dit ceci, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » L'apôtre Paul aussi fait souvent référence à la volonté de Dieu. Lorsqu'il parlait de ses projets à ses amis, par exemple, lorsqu'il fait ses salutations à l'église de Corinthe, il dit ceci au 1 Corinthiens 16, 7, il dit, « Je ne veux pas cette fois-ci vous voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. » Certaines personnes ont peur de la volonté de Dieu. Ils ont peur parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être engagés, ils ne pourront pas faire un paquet d'affaires, etc. Mais pourtant, ce que l'on voit dans les Écritures, c'est tout le contraire. Paul ne considérait pas la volonté de Dieu comme une chaîne qui le nuisait, mais plutôt comme une clé qui ouvrait des portes et le libérait. Ces libérateurs suivent la volonté de Dieu. Parce qu'on a un Dieu qui nous aime, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant, c'est quoi la volonté de Dieu? Bien, il existe deux sortes de volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qui est générale et il y a la volonté de Dieu qui est particulière. Commençons avec la volonté de Dieu générale. On peut donner quelques exemples, mais juste quelques exemples. La volonté de Dieu, par exemple, c'est que chaque personne vienne à Jésus pour être sauvée. Et si tu n'es pas chrétien encore, tu chemines, tu réfléchis, tu as fait quelques pas de foi, tu es là, tu avances un petit peu, tu viens voir, tu sondes, tu explores, tu veux découvrir. Mais sache que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu viennes à Jésus, que tu ouvres ton cœur, humblement, tu reçoives Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. C'est sa volonté. 1 Timothée 2, 4 dit ceci, « Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il dit, en effet, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Un autre exemple de la volonté générale, c'est ceci, la volonté de Dieu est que tous les chrétiens se soumettent à lui. Paul, qui parle de la générosité des églises dans la Macédoine, dit ceci dans 2 Corinthiens 8, 5. « Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » La volonté de Dieu, c'est aussi que tous les chrétiens se réjouissent, prient et lui soient reconnaissants. On peut lire dans 1 Thessaloniciens 5, 16, « Soyez toujours joyeux. » Nous avons raison d'être joyeux. Si tu es en Jésus-Christ, bon sang, tu es riche spirituellement. L'apôtre Paul parle d'Ephésiens 1 qui dit, « Nous avons été bénis de toutes les richesses spirituelles. » Et quoi qu'il arrive dans notre vie, que nous passions par travers des épreuves et tout ça, il y a toujours lieu de se réjouir à cause de toutes les bénédictions et les bontés de Dieu envers toi. Pense-y, si tu es venu au Seigneur Jésus-Christ pour avoir son salut, tu es maintenant un enfant de Dieu. Jésus demeure en toi. Tu es réconcilié avec Dieu. Tu es en paix avec Dieu. La culpabilité a été réglée à la croix. Tu es un enfant de Dieu, adopté dans la famille de Dieu. Tu as des frères et des sœurs, une assemblée, une église à travers le monde. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu as reçu un don de l'Esprit et tu as un héritage fantastique, inimaginable, qui t'attend au ciel pour l'éternité où il n'y aurait plus de larmes, plus de douleurs, plus rien, juste la joie puis le bonheur. Est-ce qu'on entend des « Amen » à ça, les amis? Amen, oui! Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, la volonté de Dieu. Maintenant, je sais qu'il y a des nouveaux ici qui commencent à lire leur Bible, puis là, vous entendez ça, prier sans cesse, ça veut dire que je vais passer 24 heures sur 24 à prier. Non, 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 cette expression-là, prier sans cesse, c'était une expression qu'on entendait dans ce temps-là pour des gens qui toussaient. On disait, ils toussent sans cesse. Maintenant, la personne ne commençait pas le matin à 8 heures, puis finissait à 11 heures quand c'était le temps d'aller se coucher. Mais non, c'était à travers la journée, ils toussaient. De la même manière, Dieu veut que de temps en temps, tu pries, tu y parles, tu as cette communion avec lui. Voilà. Prie sans cesse. Dis-le à ton voisin, là, prie sans cesse. Oui. Et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alors, chaque prescription de la Bible adressée aux croyants fait partie de la volonté de Dieu. C'est la première sorte de volonté de Dieu, cette volonté générale, mais aussi la volonté de Dieu qui est particulière. Dieu n'appelle pas chacun d'entre nous à accomplir le même travail dans la vie ou exercer le même ministère. Nous avons des dons différents. Cette partie de la volonté de Dieu est taillée sur mesure pour chacun d'entre nous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes venu au Seigneur Jésus, vous avez reçu un don. Oui, oui, un don du Saint-Esprit. Ça, c'est une capacité surnaturelle, divine, qui t'a été donnée pour accomplir une œuvre spéciale. Et ça t'appartient, ça. C'est toi, ça. Dieu t'a donné ça. Maintenant, Corinthiens 12, 4 en parle. Ça dit ceci, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, voyez-vous, selon le même esprit, et ou à un autre la foi, par le même esprit. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant chacun en particulier comme il veut. Au fil des années, plusieurs personnes sont venues me voir, m'ont demandé, « Normand, comment je fais pour connaître mon don? » Ben ça, c'est une question qui est récurrente, c'est classique. On veut connaître notre don. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a trois manières. Premièrement, t'aimes ça l'exercer. T'aimes ça exercer ton don. Maintenant, certains dons, il y a comme ce qu'on appelle en anglais un « learning curve », il y a un apprentissage, et peut-être qu'au début, tu vas trouver ça comme bizarre. Tu sais, comme il y a des gens, peut-être, des fois, ils ont un don d'enseignant. Il y a un paquet de dons, mais des fois, un don d'enseignant. Puis, tu sais, la personne va enseigner en avant, là, puis, ça a travaillé fort pour qu'il se prépare. Ça a été, on a travaillé fort pour l'écouter. C'était comme, des fois, c'est dur. Mais c'est un apprentissage. Il faut être patient. C'est comme enseigner comme monitrice, moniteur, etc. Au début, tu sais, on est peut-être un petit peu gauche, mais c'est correct, il y a comme un apprentissage. C'est correct, ça. Mais tu vas aimer ça. Deuxièmement, les autres vont reconnaître. S'il n'y a personne qui reconnaît ton don, j'ai le don de prêcher. Ah, mon Dieu, combien de gens sont venus me voir? Moi, j'ai le don de prêcher. Les autres le reconnaissent. Troisièmement, il y aurait des fruits. Il va y avoir des fruits. Et ça commence comment? Comment tu fais ça? Bien, aime Dieu, puis implique-toi. Comment veux-tu que les autres le reconnaissent si tu ne t'impliques pas? Alors, tu t'impliques. Tu sers le Seigneur. Dans, oui, oui, dans n'importe quoi, même partout, n'importe où. Mais pas partout, tu as un horaire, là. Mais choisis quelque chose, puis vas-y, investis-toi, implique-toi. Puis là, tranquillement, il y a des gens autour de toi. Oh, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Wow. Par exemple, il y a une personne ici que je connaissais pas trop, puis elle a commencé à s'impliquer, puis à aider à organiser des choses. Et mon amie, elle a une habileté là, de pouvoir organiser des, toutes sortes de choses, de projets, etc. C'est très impressionnant. Elle n'oublie aucun détail, là, c'est là, c'est comme... Vois-tu, elle a ce don-là, un don d'organisation. Alors implique-toi, mouille-toi. Et si tu fais la bonté de Dieu avec un cœur sincère, tu vas être enrichi, tu vas être béni, quelle que soit la difficulté de la tâche. L'important est d'avoir un cœur qui aime Dieu, qui veut sincèrement faire sa volonté et le glorifier. J'inviterai les musiciens à s'approcher pendant que je vous pose cette question. Vous savez, il y a un mot qui revient très fort dans la Bible, surtout dans le travail des évangiles, à travers les Écritures. C'est un mot, c'est écrit en gros caractères et ça dit « maintenant ». Maintenant. 2 Corinthiens 6, 2 dit « C'est maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Si tu n'es pas encore venu au Seigneur Jésus, maintenant, viens au Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Et le temps de l'obéissance, c'est toujours maintenant. Et quelle est la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui? Dieu t'appelle-t-il à venir à Jésus par la foi pour recevoir son salut? Alors, si c'est le cas, dis-lui, Seigneur, je le veux. Dieu t'appelle-t-il à renoncer à quelque chose? Si c'est le cas, dis, Seigneur, je le veux. Peut-être qu'il t'appelle à accepter une responsabilité qui est difficile. Si c'est le cas, dis-lui, Seigneur, je le veux. Que le cri de notre cœur soit cette parole de notre Seigneur Jésus dans le Notre Père qui a dit « Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. » Et tu sais pourquoi tu peux faire la volonté de Dieu? Parce qu'un jour, Jésus était sur la croix et il s'est écrié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? » C'est ce qui est arrivé à Jésus sur la croix. Il a été oublié. Il a été complètement ignoré par la personne la plus importante de l'univers qui comptait le plus pour lui. Et pour Jésus, c'était l'enfer. Voyez-vous ce qui se passe? Parce que Jésus a été oublié pour nous, parce qu'il a reçu l'oubli qu'on devait recevoir, Dieu s'est souvenu de nous. Malgré nos péchés, malgré qu'on mérite que Dieu nous oublie, Dieu ne nous a pas oubliés. Comment peut-il être un Dieu si gracieux parce qu'il a oublié, son Fils pour se souvenir de nous? Et parce qu'il se souvient toujours de nous, on peut se souvenir constamment de lui et vivre une vie de victoire, de joie, tout au long de la journée, à chaque instant, et prendre plaisir à faire sa volonté.